Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Le Sénat français s'est opposé ce jeudi à la ratification du traité CETA de libre-échange finalement entre l'Union européenne et le Canada par un premier vote dans l'hémicycle. Et ça, c'est grâce à une alliance gauche-droite de circonstances. On en parle avec Pierre-Marc Johnson, ex-premier ministre du Québec. Bonjour, Monsieur Johnson.
Bonjour.
Comment lire cette nouvelle-là, le Sénat qui finalement utilise un traité de libre-échange qui est en application depuis 2017 comme arme politique?
Ben, c'est pas nouveau que les tensions dans le monde agricole se répercutent un peu partout. Le gouvernement français, comme un certain nombre de gouvernements européens, ont beaucoup de difficultés avec le monde agricole, qui est fort bien organisé, qui est un lobby puissant. Cette fois-ci, leur lobby s'est exercé via le Parti communiste, les députés communistes au Sénat pour que soit inscrit la ratification dans le but de rejeter la ratification. Mais en pratique, il faut dire que ça ne changera rien. Alors, je m'explique. En ce moment, le traité est en ce qu'on appelle une application provisoire. Cette application provisoire qui dure depuis plus de 5 ans maintenant a permis un certain nombre de progrès de part et d'autre sur le plan des exportations. Mais pour empêcher l'application provisoire, il faut que 15 pays au niveau du Conseil de l'Union européenne qui représentent 2/3 de la population décide de mettre fin à l'application provisoire. Or, c'est pas parce que en France, le Sénat, dans un contexte politique un peu survolté, a pris cette décision que ça va changer l'application des choses, en tout cas pas pour un horizon prévisible.
On comprend que la grogne des producteurs agricoles, notamment des agriculteurs en France, mène à ce genre de choix. Et puis finalement, c'est un stunt politique là, pour attirer l'attention sur les difficultés du monde agricole en France. Mais au Québec aussi, on en arrache. Nos agriculteurs en arrachent. On a vu les manifestations. Est-ce que vous pensez que l'incertitude économique actuelle, le fait que plusieurs secteurs de l'économie en arrachent de part et d'autre de l'océan, vont mettre à mal l'exécution des traités commerciaux?
En tout cas, sûrement que ça va ralentir la conclusion de nouveaux traités.
OK.
Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va mettre à mal les traités qui déjà s'appliquent? Je ne pense pas, normalement. Dans le cas de l'agriculture québécoise, et les agriculteurs le savaient depuis 7 ans même, les Français ont occupé leur part des quotas nouveaux en matière de fromage, essentiellement. Et en matière de vin, ben, il n'y a jamais eu de vrais quotas. Et la France a augmenté beaucoup ses exportations de vin. Mais dans le cas du Québec, on a augmenté de façon phénoménale nos exportations de canneberges, de fruits congelés, de bleuets, nos produits en aluminium, nos appareils de mesure physique et chimique pour les laboratoires, et tout ça de façon extrêmement importante. Alors, je ne vois pas, moi, le monde agricole au Québec en ce moment mettre fin ou s'organiser pour essayer de mettre fin, ce qui serait presque impossible dans le système canadien en ce moment, mettre fin à cet accord.
Vous avez été le négociateur pour le Québec dans le cadre des négociations entourant l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et ce sont des moments charnières dans l'histoire de développement d'un État ou même d'une nation comme le Québec. Comment le Québec tire son épingle du jeu de cet accord de libre-échange dans le Canada?
Oui, alors... En fait, on a eu l'occasion de le faire dans la négociation.
Mais en fait, c'est le Québec qui a forcé le Canada, qui a mené le Canada à signer cet accord plutôt que le contraire, n'est-ce pas?
Ben, vous avez absolument raison. M. Jean Charest, alors premier ministre, a poussé pour qu'une négociation commence. En 2008, la négociation a commencé en 2009. Elle s'est terminée en 2017. Et depuis, l'accord est en vigueur. Mais le Québec était aux tables pour défendre à la fois ce qu'on appelle nos demandes ou nos intérêts offensifs, hein, qu'est-ce qu'on voulait, nous, de cet accord, et qu'est-ce qu'on voulait ralentir de la volonté des Européens dans l'accord avec nous. Et c'est comme ça qu'on a réussi à protéger le système de gestion de l'offre dans le monde agricole, même si on a accordé un certain nombre de quotas dans le cas du fromage. Et c'est comme ça que le Québec a réussi à abolir à toute fin pratique les tarifs sur les produits que nous exportons en Europe. Alors, c'était vrai pour le homard, les crevettes, c'était vrai pour... et c'est vrai sur l'ensemble des grandes productions maraîchères. Et les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sont des exemples qui profitent à des régions, par exemple, comme le centre du Québec en ce moment. Alors, le libre-échange, c'est toujours des deux côtés, puis il s'agit de voir si globalement ça fait notre affaire. Globalement, ça fait notre affaire, cet accord, et je crois que globalement, ça fait l'affaire de la France, mais est intervenue cette question hyper politisée autour du monde agricole, où je dois dire, il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé, et le Parti communiste en a profité pour, à toute fin pratique, forcer une considération de l'accord devant le Sénat. Le Sénat, il faut s'en rappeler, en France, n'est pas fait d'élus directement élus au Sénat. Ce sont des gens qui représentent le monde municipal. Ce sont pas les individus, hein, comme c'est le cas au Sénat américain.
Non, c'est comme des délégués, finalement.
Ouais, c'est des sortes de délégués des régions, des communautés, des grandes agglomérations françaises. Et en pratique, le monde rural y est très fort. Puis les pressions sur le monde rural ont fait que le Parti communiste, étant anti-libre-échange, point, a réussi à créer une situation où finalement les gens, pour se débarrasser de la question, ont dit « ben on vote pas pour », en étant conscient, pour la majorité d'entre eux, que ça n'aurait pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences sur les relations commerciales entre le Canada et l'Union européenne et entre le Canada et la France. Le seul effet possible de cette décision en ce moment, c'est sur la question qu'on appelle le recours investisseur-État, qui est une affaire un peu spécialisée dans le cas où un investisseur se plaint que l'État, en fait, l'a exproprié sans l'indemniser. Et ce genre de situation-là se pose extrêmement rarement entre le Canada et l'Union européenne.
Monsieur Johnson, la question de la gestion de l'offre, j'ai bien l'impression que, bien que ce soit un principe auquel on tient au Canada, et on est un des rares, voire le seul pays qui garde ce principe pour la volaille, c'est la volaille, les produits laitiers notamment,
évidemment, et les œufs,
et qui font en sorte que on le voit avec les États-Unis lorsque vient le temps de renégocier un accord de libre-échange avec les États-Unis dont on est dépendant. Cette question est toujours au cœur des discussions. C'était le cas avec l'Union européenne. Et on voit que la colère agricole a des effets politiques. Est-ce qu'on est toujours gagnant lors des négociations d'accords de libre-échange à défendre mordicus la gestion de l'offre? Et jusqu'à quand pourra-t-on le faire?
Oui, alors je vais vous donner simplement une illustration. Un petit événement qui s'est déroulé au début de la négociation avec l'Europe et qui illustre ce que vous dites. Le négociateur européen me dit, on est dans une réunion sociale, les choses se disent très gentiment, on n'est pas en train de négocier. Puis il me dit, évidemment, il dit, du côté du Québec, vous allez accepter qu'on mette la gestion de l'offre sur la table, c'est-à-dire qu'on accepte la négocier. J'ai dit, oui, on va faire ça avec grand plaisir si vous me garantissez que vous allez, vous, abolir les subventions à l'agriculture en Europe. Alors, dans le fond, on a un système chez nous qui, au lieu d'amener l'État à subventionner les producteurs d'œufs et les producteurs laitiers et de volailles, on a un système qui fait qu'on leur garantit un marché et on garantit ce marché-là en limitant la capacité des étrangers d'entrer sur notre marché. Mais c'est sûr que chaque fois qu'on défend ce système, dans des pays où le système d'appui au monde agricole est différent, c'est-à-dire qui est fait par subvention, c'est sûr que ça nous met dans une position défensive.
Ben, c'était ma question, d'ailleurs.
Et qu'on a de la difficulté à avancer sur d'autres sujets.
Ben voilà, c'était ma question, parce que par la force des choses, on a tellement sacralisé la gestion de l'offre, elle est tellement importante pour nous qu'on fait beaucoup de concessions, ou à tout le moins, on laisse tomber des gains offensifs qu'on pourrait faire. au nom de la gestion de l'offre, est-ce que c'est réellement payant que de continuer à protéger de manière aussi défensive et proactive la gestion de l'offre, quitte à laisser faire des gains majeurs?
Ouais. Ben, c'est sûr que si on le regarde dans l'abstrait, là, ouais, on ne tient pas compte de la réaction du monde agricole, c'est sûr que défendre la gestion de l'offre, c'est difficile tout le temps pour le Québec et le Canada dans des négociations internationales, et que ça nous coûte dans d'autres secteurs. Mais en même temps, si on abolit le système de gestion de l'offre,
va falloir payer.
Ça veut dire qu'il va falloir mettre un niveau de subvention absolument gigantesque pour permettre au monde agricole de conserver des revenus raisonnables. Et en ce sens-là, je suis pas sûr, surtout quand on regarde les déficits auxquels s'exposent les gouvernements, je suis pas sûr que se mettre à subventionner le monde agricole, c'est dans les priorités des gouvernements.
Avant de vous laisser aller, Monsieur Johnson, vous avez été premier ministre du Québec. Aujourd'hui, nous assistons au début des cérémonies entourant les funérailles d'un ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui a marqué l'histoire du pays, le Canada, mais qui a également été quelqu'un qui croyait au Québec. Comme ancien premier ministre, et vous avez été négociateur pour le Québec dans l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Lui, il a signé, réussi à négocier avec les États-Unis l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Comment vous voyez la perte de Brian Mulroney?
D'abord, personnellement, hein, je le connais, j'ai eu le plaisir de rencontrer son épouse plusieurs fois aussi, en même temps que dans des événements sociaux, mais en même temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec Brian Mulroney, à la fois comme premier ministre, quand j'ai négocié la présence du Québec au sommet de la francophonie avec lui. Il a démontré une grande ouverture. Deuxièmement, c'était un homme qui était un visionnaire sur le plan des grandes politiques, notamment en matière internationale. Et c'était fondamentalement un homme politique qui aimait les gens. Et on le sentait, et les témoignages de, je vous dirais, de chaleur, pour pas dire carrément d'amitié, venant de la population au moment de son décès, en fait, sont un reflet de ce qu'était cet homme qui était très près des gens. Puis en but de ça, c'est un homme qui était dédié à des enjeux fondamentaux comme les droits de la personne, ce qui l'a amené à jouer un rôle de leader sur le plan international pour que survienne la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et en ce sens-là, moi, je n'ai que de bons souvenirs et surtout beaucoup d'attachement à ce que cet homme a été. C'était un homme qui aimait la franchise, la loyauté, et qui en faisait preuve constamment.
Mais Pierre Mark Johnson, ancien premier ministre du Québec, ancien négociateur pour le Québec dans dans le cadre des négociations entourant l'entente de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous entendre, M. Johnson.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.